Le journal Loïc Georgie.
Bonjour, le canton de Berne rejette les accusations de mensonges à son encontre. Ce week-end, le Sonntagsblick a sous-entendu que les chiffres concernant la positivité au coronavirus étaient incorrects dans le canton. Les autorités ont nié et ont bloqué hier. Ramener de la vie dans les rues de Bienne, c'est l'objectif du conseil municipal. Il a ainsi lancé une opération food truck. L'idée est de placer des camionnettes de restauration dans certains lieux bien précis de la cité célandaise. Et météo, c'est le soleil qui devrait être au rendez-vous en ce début de journée. Mais il devrait faire place à une couverture nuageuse dans l'après-midi. Des pluies ne sont pas exclues en toute région. Pas de raison de croire que les chiffres Covid étaient faux. La direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration avec le conseiller d'État Pierre-Alain Schneck ont pris hier la défense de leurs chiffres officiels sur les tests de masse. Un article du Sonntagsblick paru ce week-end conteste les données du canton de Berne sur les taux de positivité. Le département s'oppose à toute accusation de mensonge. Les précisions de Valentine Courvaya.
La direction de la santé s'est exprimée hier sur la fin des tests à grande échelle et leur taux de positivité, notamment dans les écoles. Ce week-end, un article paru dans le Sonntagsblick remet en cause la fiabilité des chiffres officiels. Selon le média, l'OFSP a fait analyser les échantillons de la fin de la dernière semaine de dépistage auprès d'un nouveau laboratoire. Le taux de positivité des premières semaines déclarées par le canton était de 0,09% et celui du nouveau laboratoire sur les derniers tests de masse de 0,33 et 0,44%. La direction de la santé explique cette différence par le fait que les cas ont augmenté plus fortement cette semaine-là, ce qui expliquerait cette soudaine hausse du taux de positivité.
Et la direction de la santé rappelle aussi que le contrôle des laboratoires de tests revient à la Confédération et n'est pas à la charge des cantons. L'incendie de l'usine Tectree à Cours en 2017 a bien été causé par des négligences. C'est en tout cas l'avis du tribunal régional le Jura Bernois-Seeland à Moutier. La juge Maëlie Ruffenhardt a rendu hier après-midi son verdict dans le procès qu'il occupait depuis une semaine. Le chef du chantier et le patron de l'entreprise de ferblanterie qui menait des travaux sous le toit lorsque l'incendie s'est déclaré ont été reconnus coupables d'incendie par négligence. Chacun a écopé de 30 jours amende avec un sursis de 2 ans. Faire revivre certains espaces peu exploités de la ville de Bienne, tel est l'objectif du projet Food Truck lancé par les autorités. Dès le printemps prochain, divers emplacements seront dédiés aux camionnettes de restauration. Les exploitants seront sélectionnés au travers d'un processus de candidature. Pendant une année, ces food trucks passeront par chaque espace sous la forme d'un tournus afin de proposer une offre gastronomique variée et ainsi attirer les patients, les passants. Florence Moll, responsable du département de l'urbanisme.
Pour la première année, on a défini 4 emplacements. Ces emplacements sont d'une part la place Ravel-Vazer, d'autre part la place d'Orpont. Et ensuite, on a encore l'esplanade du Palais des Congrès et la terminaison de la rue du Four, là où elle retrouve la rue de Nidon. L'idée générale du projet, c'est donc de permettre d'activer des espaces publics qui sont peut-être sous-utilisés au quotidien. Typiquement, si je prends l'esplanade du Palais des Congrès, c'est une place qui fonctionne quand on a des grandes manifestations, mais en dehors de ça, au jour le jour, il y a beaucoup de moments où elle est sous-utilisée pratiquement. Et l'ambition, c'est d'amener avec un food truck un peu plus de circulation, plus de passants pour amener de la vie dans ces espaces-là.
Les exploitants intéressés peuvent déposer leur dossier en ligne dès la semaine prochaine. Ils doivent remplir des critères bien précis. On y reviendra dans la matinale vers 8h35. L'hôpital du Jura garde la tête hors de l'eau et notamment grâce au canton. L'établissement a présenté hier son rapport d'activité 2020 et l'impact du Covid-19 se monte à 12 millions de francs, dont 8 millions ont été absorbés grâce au soutien cantonal et au crédit voté par le Parlement jurassien. L'institution assure avoir tenu son rang même durant les périodes les plus difficiles. Le directeur de la JIU, Thierry Charmillot.
Nous avons eu l'immense chance dans un premier temps d'avoir un premier trimestre assez bon en 2020 et surtout d'avoir le soutien du canton. Sans le soutien du canton, c'est clair qu'on aurait eu une perte importante de l'ordre de 8 millions qui aurait pu prétériter nos investissements futurs.
Avec la crise du Covid, vous avez eu moins de patients, ça a prétérité aussi.
Effectivement, nous avons eu donc une chute d'activité, 1000 patients en moins à peu près. Cela se justifie par le fait qu'on a bloqué les activités et surtout qu'on a dû... On devait anticiper un éventuel afflux de patients, donc on ne savait pas jusqu'à quelle hauteur allaient ces fameuses vagues et on bloquait des lits pour être sûr de pouvoir prendre n'importe quel patient.
Des propos recueillis par Léandre Béret, l'HJU qui veut d'ailleurs bâtir sur cette crise. L'institution a annoncé hier avoir réservé un terrain de 12 000 m² aux abords de la gare de Delémont pour le nouvel hôpital de soins aigus. Qui peut décider d'autoriser la Suisse à exporter des armes? Vers quel pays et selon quels critères? Cette question est au cœur de l'initiative populaire dite correctrice. Cette dernière veut transférer ce pouvoir du Conseil fédéral au Parlement, voire même au peuple en cas de référendum. Le Conseil national en a débattu hier soir. Il devrait opter pour un contre-projet. Le débat est donc ouvert. Faut-il permettre au Conseil fédéral de faire des exceptions? Les initiants disent non. La conseillère nationale verte libérale vaudoise Isabelle Chevalet.
On est surtout humaniste parce que finalement, si on a soutenu l'initiative dès le départ, c'est parce qu'on se dit oui à l'exportation des armes, mais pas n'importe comment. On était très simple avec l'initiative, hein. On a repris le texte de l'ordonnance du Conseil fédéral de l'époque qu'il avait lui-même édicté lorsqu'il y avait le débat sur l'initiative pour l'interdiction d'exportation des armes. Et on veut simplement que ce texte soit mis dans la loi parce que chaque fois, sinon qu'il y a une exception, eh bien, c'est trop facile pour le Conseil fédéral d'édicter des exceptions.
Le contenu du contre-projet fera l'objet d'un autre débat au Conseil national et ce sera demain matin. À l'étranger, un retour des mammouths laineux après 4000 ans d'extinction, c'est peut-être ce qui va se produire dans la toundra arctique d'ici quelques années. L'entreprise américaine Colossal a annoncé hier qu'elle allait tenter de relever ce défi. Elle se servira ainsi de manipulation génétique pour lancer son modèle de dé-extinction. Elle deviendrait ainsi la première entreprise à appliquer cette technique aussi avancée. Et pour terminer, un tiers des enfants et adolescents souffrent de surpoids en Amérique latine et dans les Caraïbes. La pandémie de coronavirus accentue les difficultés d'accès à une alimentation de qualité pour les mineurs, a averti hier l'UNICEF. Selon l'organisation, des mères et des pères ont perdu leurs revenus et les prix des aliments ont augmenté. L'alimentation saine est donc devenue hors de prix pour ces foyers durant la pandémie. 7h07, c'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Je vous souhaite une très belle matinée à notre écoute.